Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la Sainte Sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnama vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 24 Aban 1401 du calendrier iranien, 15 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. L'Iran appelle Bagdad à faire cesser les complots ourdis depuis la région du Kurdistan irakien. Bagdad ne laisserait aucune menace venir de son territoire à ses voisins, a annoncé le gouvernement irakien. L'Allemagne négocie l'achat du pétrole iranien. Et nouvelles sanctions de l'Union européenne contre 29 individus et 3 entités iraniennes, dont la chaîne Press TV. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que Téhéran et Bagdad entretiennent d'excellentes relations et que l'Iran ne s'attend donc pas à être menacé depuis la région autonome du Kurdistan irakien. Hossein Amir Abdullahian a ajouté que la sécurité des deux voisins peut être garantie s'ils respectent les résultats des pourparlers bilatéraux. Il a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec le ministre irakien des Affaires étrangères. De son côté, Fouad Hossein a assuré que Bagdad ne laisserait aucune menace venir de son territoire à ses voisins. Auparavant, le corps des gardiens de la révolution islamique avait effectué de nouvelles frappes de drones et de missiles contre des bases terroristes au Kurdistan irakien. Le corps des gardiens de la révolution islamique affirme que les frappes sont une réponse aux opérations terroristes contre l'Iran. L'économiste en chef de la banque partiellement publique en Allemagne, LBBW, dans le sud-ouest de l'Allemagne, aurait déclaré que l'Allemagne était en pourparlers avec la République islamique d'Iran pour acheter du pétrole iranien. Des pourparlers intensifs sont déjà en cours dans les coulisses avec le Venezuela, l'Iran et l'Algérie pour couvrir les besoins en pétrole et essence de l'Allemagne, a déclaré le journal israélien Jerusalem Post, citant Moritz Kramer, économiste en chef de la banque LBBW. Les exportations de pétrole de l'Iran ont été affectées par diverses sanctions depuis environ une décennie, l'ancienne administration américaine essayant même de les réduire à zéro. Bien que l'objectif n'ait jamais été atteint, les exportations de pétrole de l'Iran et l'accès à son argent ont été sévèrement limités après que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en 2018 et a décidé de réimposer les séries de sanctions économiques contre la République islamique d'Iran. Un responsable iranien a dénoncé le soutien porté par Londres à des médias persanophones anti-iraniens. Un haut responsable iranien des droits de l'homme a critiqué le soutien du gouvernement britannique à la campagne anti-iranienne illégale menée par les médias en langue persane, affirmant que le rôle de ces médias anti-iraniens financés par l'État britannique n'est rien de moins que celui des groupes terroristes. En fait, les actions des médias en langue persane sont totalement contraires aux lois et règlements et nous tenons le gouvernement britannique pour responsable à cet égard, a déclaré le secrétaire du Haut Conseil aux droits de l'homme, Kazem Gharibabadi, aux journalistes à New York. Un communiqué de l'Union européenne indique que 29 personnes et 3 organisations ont été ciblées par ce qu'elle a appelé l'usage généralisé de la violence et de la force par Téhéran contre les manifestants pacifiques. Le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi, ainsi que plusieurs responsables militaires et sécuritaires figurent sur la liste des sanctions. La chaîne Press TV fait partie des 3 entités auxquelles des sanctions ont été infligées. Les sanctions comprennent des interdictions de voyager et des gels d'avoir. Téhéran a mis en garde contre une réponse proportionnée et ferme aux nouvelles mesures prises par l'Union européenne. Le bloc européen avait proposé des sanctions similaires le mois dernier contre plus d'une douzaine d'individus et d'institutions iraniennes. L'Iran a rejeté ces sanctions comme étant un exemple clair d'ingérence dans ses affaires intérieures. Les forces israéliennes ont tué un Palestinien en Cisjordanie occupée lors d'une prétendue attaque au couteau. L'armée du régime israélien a tué le jeune Palestinien près de la colonie israélienne d'Ariel. Plus tôt, le Palestinien aurait poignardé plusieurs Israéliens en tuant 3 et en blessant 3 autres, selon les autorités de Tel Aviv. La résistance islamique de la Palestine, Hamas, a salué l'opération. Le Hamas a déclaré que cette opération montrait la puissance des Palestiniens dans leur lutte contre les crimes israéliens et dans la défense de la mosquée Al-Aqsa. Les Palestiniens ont lancé les attaques au couteau en réponse à la violence israélienne toujours croissante dans les territoires occupés qui a tué 140 personnes depuis le début de cette année. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé au sommet des 20 premières économies mondiales, exigeant la fin de ce qu'il a appelé la guerre destructrice de la Russie. Zelensky a accusé la Russie de militariser l'énergie avant l'hiver et de saper la stabilité des prix de l'énergie dans le monde. Il a déclaré que cela devrait être contré en imposant un plafond de prix sur les exportations de pétrole russe. Le président ukrainien a également accusé la Russie de chantage nucléaire dans la guerre d'Ukraine, malgré les démentis répétés de Moscou. Volodymyr Zelensky s'exprimait par vidéoconférence lors du sommet du G20 dans la ville indonésienne de Bali. Lors du discours d'ouverture du sommet mardi, le président indonésien a appelé à l'unité ainsi qu'à des mesures nécessaires pour empêcher le monde de se diriger vers une autre guerre mondiale. L'armée russe a ordonné jeudi le retrait de ses forces de Kherson. Le commandant russe en Ukraine a déclaré qu'il n'était plus possible de continuer à approvisionner la ville. Pour rappel, ces événements surviennent dans le contexte de l'opération militaire lancée par la Russie fin février dernier. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a exhorté l'Irak voisin à faire cesser les menaces anti-iraniennes orchestrées depuis la région semi-autonome du Kurdistan irakien. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amirabdollahian, a appelé le gouvernement de Bagdad à mettre un terme aux menaces anti-iraniennes organisées sur le territoire du Kurdistan irakien. Il a fait cette remarque lors d'un appel téléphonique lundi soir, 14 novembre, avec son homologue irakien, Fouad Hossein. Au cours de cette conversation téléphonique, le diplomate iranien a décrit la sécurité comme un élément clé tant au niveau régional que dans les relations bilatérales. La République islamique d'Iran ne s'attend pas à être menacée depuis la région du Kurdistan irakien, compte tenu des excellentes relations entre les deux pays, a déclaré Amir Abdollahian. Il a ajouté, le gouvernement central de l'Irak est responsable de l'éradication des terroristes. Le chef de la diplomatie iranienne a fait référence aux tentatives de terroristes anti-iraniens d'utiliser le territoire de la région autonome du Kurdistan irakien pour cibler le sol iranien et pour faire passer des armes dans le pays, qui ont été utilisées lors de récentes émeutes pour attaquer les forces de sécurité iraniennes. Pour sa part, le ministre irakien des Affaires étrangères a déclaré « Bagdad ne permettra pas que ses voisins soient menacés depuis son territoire ». Il a également exprimé sa satisfaction quant au niveau actuel des relations bilatérales, soulignant que la coopération entre Téhéran et Bagdad servira la sécurité commune des deux pays. Lundi 14 novembre, le corps des gardiens de la révolution islamique a pilonné les positions de groupes terroristes opérant près des frontières ouest et nord-ouest de l'Iran, dans la région du Kurdistan irakien, avec plusieurs lance-roquettes, des armes de haute précision et des drones. Le corps des gardiens de la révolution islamique a exhorté le gouvernement central irakien ainsi que la région du Kurdistan irakien à respecter leurs engagements envers la République islamique d'Iran et à prendre des mesures nécessaires pour sécuriser les frontières communes entre les deux pays. Le corps des gardiens de la révolution islamique indique dans un communiqué « Cette opération résulte de l'inaction continuelle et des cas de manquement évidents, souvent intentionnels, de la part des responsables de la région du nord irakien face aux activités des groupes terroristes et séparatistes contre-révolutionnaires et anti-iraniens qui se cachent depuis des années dans cette région pour ourdir des complots et agressions contre la nation iranienne. Ces derniers cherchent de nouveau à fomenter l'insécurité en Iran malgré l'opération menée le mois dernier. Par conséquent, dans les circonstances et grâce à une planification stratégique ainsi qu'à une prédominance en matière de renseignement, les positions et les trajectoires des terroristes pour transporter des armes et des munitions vers la République islamique d'Iran ont été frappés ce lundi matin lors d'une opération de missiles et de drones des combattants de l'islam, ajoute le communiqué. Le gouvernement irakien et la région autonome du Kurdistan doivent respecter leurs engagements et sécuriser les frontières communes, a souligné le corps des gardiens de la révolution islamique dans son communiqué. À cet égard, le corps des gardiens de la révolution islamique évoque la revendication ferme, légale et légitime des forces armées et du peuple iranien
qui s'attendent à ce que les responsables du Kurdistan irakien contribuent à assurer la stabilité et une paix durable dans la région en prenant des mesures nécessaires, du désarmement des terroristes au démantèlement de leur position, en passant par des actes rassurants pour éloigner les mercenaires et les terroristes criminels de la région. En réponse aux activités terroristes visant la sécurité de la République islamique d'Iran au cours des dernières années, le corps des gardiens de la révolution islamique a de temps à autre pris pour cible les repères des terroristes dans la région autonome du Kurdistan irakien. Ces frappes préventives ont pris une ampleur particulièrement importante depuis le 24 septembre.
Bonjour à toutes et à tous, et merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. C'est un débat concernant les propos du secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, qui a tenu un discours récemment très dur et très direct à l'adresse des États-Unis et d'Israël. Concernant les élections présidentielles en Israël, il a dit que tous les gouvernements et des cabinets israéliens étaient des terroristes et corrompus. Et concernant les États-Unis, il a dit que toutes les administrations américaines et les objectifs de ces dernières, que ce soit républicaines ou bien démocrates, et bien sûr visaient les mêmes objectifs qui étaient bien sûr commettre des crimes contre les Palestiniens. Et pourtant, ils ont toujours soutenu ces crimes et ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et bien sûr, nous allons parler de cela avec des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Saïd Hassan Nasrallah, a déclaré que l'ennemi n'a pas réussi à détourner la nouvelle génération dans la région du juste chemin de la résistance. Il a fait ses remarques vendredi à Beka lors d'une cérémonie marquant la journée des martyrs au Liban. Le chef de mouvement de la résistance libanaise Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, se référant à l'opération martyr de la résistance menée le 11 novembre 1982 contre le bâtiment du quartier général militaire israélien à Tir, au cours de laquelle plus de 100 soldats et officiers israéliens ont été tués, a déclaré « Cette opération a ébranlé l'ennemi ». Hassan Nasrallah a évoqué les complots de l'ennemi visant la nouvelle génération des pays de la résistance. L'ennemi, notamment les États-Unis, a cherché à répandre des cultures inappropriées à une culture de l'indifférence parmi notre jeunesse. Malgré toutes les tentatives de l'ennemi dans le cyberespace, je dois dire que l'ennemi n'a pas réussi à éloigner nos enfants du juste chemin de la résistance. Nos jeunes rivalisent même entre eux aujourd'hui pour aller sur les fronts de guerre et porter bien haut le drapeau de la résistance. Il a ensuite appelé le peuple libanais à ne pas capituler face à la malédiction des États-Unis dont le seul désir des Américains est de protéger le régime israélien. Faisant référence aux élections américaines de mi-mandat, Nasrallah a déclaré que les gouvernements républicains et démocrates ont lancé des guerres et des invasions. Concernant les récentes élections législatives en Israël, le chef de la résistance libanaise a souligné « Tous les gouvernements et cabinets israéliens ont toujours été des terroristes et corrompus ». Il a ajouté « Nous ferons face à tout cabinet israélien, qu'il soit extrême ou modéré, de gauche ou de droite, avec son pouvoir et ses éléments. Il en va de même pour l'accord de démarcation maritime. Nous ne comptons que sur notre force pour affronter Tel Aviv. » Washington n'a pas conclu l'accord de démarcation de la frontière maritime pour le bien du Liban, mais plutôt pour épargner la région de la guerre, car ses priorités sont maintenant l'Ukraine, la Russie et l'énergie, a poursuivi Nasrallah. Il a ensuite appelé le peuple libanais à ne pas capituler face à la malédiction des États-Unis, dont le seul désir des Américains est de protéger le régime israélien. Concernant la politique américaine dans la région, tout en condamnant la loi César et les sanctions contre le Liban, la Syrie, l'Irak et le Yémen, il a évoqué les événements internes en Iran avant de rappeler que la République islamique d'Iran a su une fois de plus déjouer les intrigues des Américains et de l'Alliance israélo-occidentale.
Voilà pour le reportage. Vous regardez l'émission Le Débat. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Emadeddine Amrouni, expert des questions internationales, qui est avec nous depuis Paris. M. Amrouni, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à votre invité et à tous nos téléspectateurs.
Oui, justement, Maître André Chamy, juriste international et expert des questions internationales depuis l'Alsace. Monsieur André Chamy, bonjour.
Bonjour, bonjour à vous tous, à toute l'équipe, ainsi qu'à M. Amrouni et à vos téléspectateurs.
Un plaisir donc de vous recevoir. Ma première question va s'adresser à Maître André Chamy. Alors, Maître André Chamy, nous parlons bien sûr du discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, un discours très direct et très dur qui a secoué le monde politique en s'adressant directement aux États-Unis et à Israël. Que pensez-vous?
Le discours de Saïd Hassan Nasrallah était, il y a deux jours, un discours, comme d'habitude, d'un véritable chef d'État, en réalité, bien qu'il n'en a pas le titre, parce qu'il y avait une portée à caractère local, une portée à caractère régional et une portée à caractère régional, international. Sur le plan local, il a rappelé le rôle de la résistance et le début du martyr du jeune Ahmad Qasir, qui se trouve à l'origine, entre guillemets, de cette journée du martyr, mais en même temps du déclenchement des hostilités sur une grande échelle contre l'occupation israélienne au Liban, et le développement de la résistance dans ce sens-là, avec nombre de partis qui ont contribué à la libération du Liban, qui ont contribué à la préservation de l'entité et de l'intégrité du territoire libanais, mais même au-delà de l'intégrité du territoire libanais, à la préservation de la paix dans la région, aussi bien en Syrie qu'en Irak, voire au-delà. Ce sont des points qui ont été rappelés par rapport à ce que j'appellerais le point local et le rôle de la résistance, jusqu'à ce qu'on arrive à la question de la fixation des limites territoriales, je dirais pas territoriales, mais en tout cas les limites des eaux entre le Liban et l'entité sioniste, qui est en réalité une entité d'occupation, parce que même ces mers de ce côté-là, ce sont des mers palestiniennes, ils ne sont pas des mers israéliennes. Mais bon, ce n'était pas le thème du débat, mais je rappellerai que cette ligne de démarcation n'a été fixée que par la force de la résistance et par la menace directe qui a été menée par Saïd Hassan Nasrallah contre l'entité sioniste et contre tous ceux qui oseraient continuer d'exploiter ces zones maritimes au détriment du peuple libanais, au détriment des intérêts du Liban et surtout au détriment de l'économie libanaise qui est quasiment moribonde. Et tout cela a été rappelé sur le plan local. Mais sur le plan régional, il a rappelé également que c'est cette résistance qui a permis de renaître ou de voir renaître cet esprit de combattre toute occupation, aussi bien au Liban qu'en Syrie, qu'en Irak, mais surtout au sein des territoires palestiniens, parce qu'il y a une nouvelle génération qui est née, qui est inspirée de la résistance libanaise et qui est même insufflée par la force de la résistance libanaise et qui aujourd'hui dépasse toutes les perspectives israéliennes et américaines concernant la population palestinienne, parce qu'on croyait que avec la première occupation et les nouvelles générations, cet esprit de résistance allait disparaître. Et en réalité, on découvre au contraire cet esprit de résistance s'est accentué aussi bien au Liban qu'en Palestine. Et aujourd'hui, quand on constate ce qui se passe comme acte de résistance héroïque du côté des jeunes Palestiniens qui ont dépassé et de loin leurs propres parents ou leurs grands-parents, nous avons la démonstration qu'effectivement cette nouvelle génération est là et elle prépare en quelque sorte la libération du territoire palestinien occupant israélien. Oui. Et cet esprit se généralise à travers le monde parce qu'aujourd'hui, l'idée que les États-Unis ou l'entité sioniste puisse menacer tel ou tel pays ne font plus peur. Aujourd'hui, au contraire, il y a deux exemples qui ont été donnés, et ces exemples démontrent que ces puissances n'auront pas le dernier mot et peuvent être battues, peuvent être vaincues et peuvent aller au-delà de toutes les, je dirais, prévisions qui ont été envisagées par les Israéliens et par les Américains. La preuve, c'est que les Israéliens avaient installé une sorte de gouvernorat au sud du Liban en croyant que ils allaient gouverner le Liban à travers ou à partir de cette base-là. Puis ce qui s'est passé, c'est que le premier bâtiment visé, c'était ce gouvernorat et qui a déclenché le démarrage du départ d'Israéliens alors qu'on était en 82-83, c'est-à-dire c'était le début de l'installation. Et finalement, ça a donné quoi? Ça a donné juste le top départ pour, si j'ose dire, l'évacuation et l'éviction des Israéliens qui sont installés au Liban. Et puis on a vu, au fur et à mesure, quelques années plus tard, ils n'avaient plus de présence jusqu'à l'an 2000, c'est-à-dire à peine 17 ans après, il n'y a quasiment plus d'Israéliens sur le territoire libanais, à l'exception de quelques autres qui se trouvent à l'extrême sud, c'est-à-dire les fermes de Sheba et d'autres petites zones qui se trouvent, et que Farshouba, qui se trouvent à l'extrême sud, mais qui seront libérées, puisque vous avez en parallèle la promesse de Saïd Hassan al-Nasrallah d'obtenir la libération de ces territoires-là, comme il a obtenu la libération des territoires maritimes libanais. Absolument. En rappelant que ça, c'était les exigences de l'État libanais, mais pour lui, ce ne sont pas, les droits, dans leur totalité, des droits du peuple libanais sur leurs eaux territoriales, parce que lui, il estime que ces eaux territoriales vont encore au-delà de ce qui a été fixé. Mais il s'en contente momentanément, mais ça permet également l'exploitation de cette zone au profit du peuple libanais, au profit de l'économie libanaise. C'est-à-dire, derrière ça, derrière ce discours local et régional, vous avez également un discours international qui s'adresse directement aux États-Unis, parce qu'il dit que les Américains traitent le Hezbollah, il a utilisé plusieurs adjectifs en disant ça peut être la rage ou une infection ou une malédiction ou une maladie. Il a dit, quel que soit le qualificatif, regardez voir ce que font les Américains, c'est eux qui sont la malédiction, c'est eux qui sont la rage qui ronge la région, c'est eux qui sont le cancer qui range la région. Et pour se débarrasser de ce cancer, il faut se débarrasser des Américains, et avec une démonstration très détaillée et très explicite par rapport au rôle des Américains dans la région, qui démontre qu'ils n'ont amené que la destruction et le malheur dans cette zone-là. Oui, il faut donc maintenant aller au-delà de ce qui est fait maintenant, c'est-à-dire se débarrasser carrément de toute présence américaine dans la région, et cela ne peut se faire qu'à travers des actes de résistance qui doivent se généraliser dans toute cette zone-là, comme cela est déjà le cas en Syrie et en Irak. Mais à mon avis, il y a maintenant une direction vers l'accentuation de ces actes de résistance afin de parvenir à une libération pure et simple de tous ces territoires, de toute présence américaine, et pas seulement de la présence sioniste, mais également de la présence américaine, parce que cette présence trouve en quelque sorte son pendant l'un dans l'autre, c'est-à-dire vous avez l'une dans l'autre, c'est-à-dire la présence américaine appuie l'occupation israélienne, la présence israélienne appuie également la politique américaine. Et par conséquent, il faut se débarrasser des deux simultanément afin de parvenir à une libération réelle de l'ensemble des populations de cette région-là. Et en même temps, à mon sens, ils visaient également tous leurs collaborateurs dans la région-là, et on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, tout à fait. Maître Chami, vous avez entendu les propos de M. Emadeddine Hamrouni. Bien sûr, Cheikh Hassan Nasrallah a dit que tous les objectifs des administrations américaines, que ce soit républicaines ou bien démocrates, sont similaires, seules les tactiques diffèrent. Et de l'autre part, M. Emadeddine Hamrouni a dit qu'ils font tout, les États-Unis et Israël, pour semer la discorde au sein même de la politique à l'intérieur du Hezbollah libanais, pour empêcher ce parti d'avancer et de résister face à l'hégémonie?
Ben, vous savez, aujourd'hui, l'entité sioniste a deux grandes menaces, si j'ose dire, et ce sont des menaces existentielles. J'ai envie de dire d'abord les Hezbollah, parce que c'est l'ennemi le plus proche, et en second lieu, c'est la République islamique d'Iran. D'ailleurs, l'ensemble des chefs de gouvernement et même des responsables de sécurité et les chefs d'état-major israéliens rappellent systématiquement et de manière constante, et ce depuis quelques années, que leur premier ennemi, c'est la République islamique d'Iran. Pourquoi la République islamique d'Iran? Et pourtant, c'est à des milliers de kilomètres de la frontière supposée de cette entité. C'est parce que c'est l'animateur, entre guillemets, pour ne pas dire le premier instigateur de lutte contre l'entité sioniste et contre l'impérialisme américain. Et ce rôle-là rend évidemment la République islamique d'Iran le premier ennemi de cette puissance. Par conséquent, s'il y a des attaques interne contre le Hezbollah par les collaborateurs aussi bien des Américains que d'Israéliens à l'intérieur du territoire libanais et à l'intérieur même du monde arabe, parce que moi je me rappelle en 2006 à l'époque le prince saoudien disait que le Hezbollah était composé d'aventuriers au lieu d'appuyer le Hezbollah dans sa guerre contre l'entité sioniste. Et ils ont été traités d'aventuriers. Et Saïd Hassan Nasrallah a eu une vraie phrase à l'époque, je dirais, de chef de guerre. Il leur a dit « Nous sommes des aventuriers et nous assumons notre rôle, mais nous refuserons à ce moment-là, et bien entendu, la soumission et l'agression. » Et au lieu de se soumettre, et bien entendu, la contre-attaque contre l'Israélien a été menée d'une main de maître et a mené évidemment à la victoire que tout le monde connaît et que tout le monde reconnaît, y compris à l'intérieur de l'entité sioniste, mais pas pour certains à l'intérieur des pays arabes. C'est ça que je trouve médiocre et inacceptable, mais en tout état de cause démontre la qualité de collaboration de certains pays arabes et de certaines organisations arabes, y compris à l'intérieur du territoire libanais, parce qu'il y a des mouvements au Liban qui ont eu pratiquement des positions identiques. Et il nous parlait à l'époque des tours de menaces contre le tourisme libanais à travers cette guerre-là, au lieu de penser à l'entité libanaise et surtout à l'intégrité du territoire libanais et je dirais même à la sécurité du Liban. Mais vous avez des esprits qui sont dévoyés, et ça également a été rappelé hier par Saïd Hassan Nasrallah en rappelant le rôle de l'éducation, le rôle de cette idée de la résistance, comment on insuffle l'idée de la résistance de génération en génération. Ces questions-là, ce sont des questions existentielles pour la résistance, mais ce sont des questions existentielles pour l'ensemble de l'axe de la résistance. Et c'est ça, en réalité, la menace qui touche le plus les ennemis de ces résistants, parce que tant qu'il y a des esprits résistants qui se transmettent de génération en génération, eh ben, la menace continuera contre ces entités, l'entité sioniste et contre l'impérialisme américain. Ce sont des points fondamentaux dans ce que j'appelle l'esprit du futur de la résistance, et c'est ça qui fera prospérer les causes que nous défendons et que nous entendons prospérer dans l'avenir proche et plus éloigné.
Tout à fait. Justement, Maître Chami, les jeunes donc du parti libanais se défient pour aller à la première ligne du front contre l'entité sioniste. Monsieur Mahdedin Hamrouni, que pensez-vous?
C'est ça, c'est la culture du martyr. C'est-à-dire l'invention, j'ose dire, mais l'invention de la révolution islamique iranienne et la résistance libanaise, et on le voit partout maintenant, en Syrie, en Irak, au Yémen, les martyrs. Et cette culture du martyr, elle a un fondement réel. C'est-à-dire comment on choisit de mourir pour la cause. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire dans la culture moderne, on cherche à rester en vie. C'est pas on cherche à mourir. Et donc cette culture du martyr, à la base, c'est donc la culture spirituelle de Karbala, de l'imam al-Hussein et bien d'autres. Mais cette culture, elle existe partout, dans toutes les cultures humaines. On l'a vu dans les Indiens d'Amérique aussi. Ils se sont mis, ils se sont combattus jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ils ont choisi de ne pas s'assimiler, ils ont choisi le martyr. Et c'est ça la bonne, comme l'a dit Maître Chami tout à l'heure, l'invention de cette jeunesse libanaise et cette jeunesse iranienne des années 80, c'est-à-dire aller libérer les territoires et aller combattre l'ennemi. allait combattre l'ennemi avec sa propre force, c'est-à-dire sa force spirituelle d'abord, sa force morale après, mais aussi préparer la force technologique. Et c'est ça aujourd'hui l'affrontement entre les États-Unis et l'axe de la résistance, c'est un affrontement. Ce n'est pas simplement technologique, c'est un affrontement culturel. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle culture de vie. Et cette culture, on l'entend le président Poutine. C'est-à-dire dans le discours de président Poutine, Monsieur le russe Amroni, aujourd'hui, oui, il œuvre pour une nouvelle culture, la culture des hommes. Et cette culture des hommes saints, des hommes libres, on la voit où ? On la voit en Iran, on la voit en Palestine, on la voit au Yémen, en Irak et surtout au Liban. Donc Saïd Hassan Nasrallah, il a toujours été le symbole de tous ces martyrs, de toutes ces familles libanaises importantes, qui a donné la vie de ses enfants pour libérer le Liban, la Palestine, mais surtout pour libérer les hommes de toute peur face à l'oppression américaine. C'est ça l'importance de la résistance libanaise, en fait.
Mais pourtant, M. Amrouni, l'entité sioniste et les États-Unis, que ce soit républicains ou démocrates, ont tout fait pour tuer cette culture au sein même du Hezbollah libanais. Mais en vain, n'est-ce pas, M. Amrouni ?
Bien sûr, vous savez, l'ennemi, il est très puissant. L'ennemi a une grande puissance de feu, il a une grande puissance de communication, il a des moyens financiers et économiques. On le voit, cet ennemi-là, il n'a même avec ses alliés. Nous, en Europe, aujourd'hui, on souffre. La population européenne, elle souffre d'une guerre où les peuples d'Europe n'ont rien à voir avec. C'est-à-dire que la décision américaine ou britannique ou israélienne de soutenir l'Ukraine et de faire la guerre à la Russie, eh bien, c'est les peuples européens qui payent le prix fort. Eh bien, c'est pareil, c'est-à-dire cet ennemi, c'est une malédiction, pas simplement pour la région, mais pour le monde. Et c'est dans le discours de Saïd Hassan Nasrallah, a beaucoup de sens. C'est-à-dire, malgré sa force, malgré cette force économique, militaire, financière, de communication aussi, mais il est très fragile. Il est très fragile parce qu'il ne porte pas les valeurs des hommes. Parce que cet ennemi-là, on peut le vaincre, on peut le battre. Et donc, il donne l'espoir par la force spirituelle, par la force morale, mais aussi la force technologique. Et c'est pour cette raison qu'on voit que la coopération entre l'Iran, la Russie, la Chine, la résistance libanaise, le gouvernement syrien, la résistance irakienne, la résistance yéménite, c'est cette coopération technologique, mais aussi dans le sens de lutter pour des valeurs plus importantes humainement, elle emportera la victoire, comme Maître Chami l'a dit tout à l'heure, on se bat pour le futur.
Emad Eddin Amrouni, expert des questions internationales depuis Paris, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Un grand merci à Maître Chami depuis l'Alsace d'avoir apporté beaucoup de précisions à cette émission. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Bonjour, chers auditeurs. Dans les émissions précédentes, nous nous sommes familiarisés avec les activités de plusieurs entreprises basées sur le savoir dans le pays. Aujourd'hui, nous parlerons de la Société d'acier pour l'industrie automobile de NECA. « Aujourd'hui, la société d'acier pour l'industrie automobile d'Oneka est l'un des producteurs d'acier du pays. Les tuyaux en acier produits dans cette entreprise sont utilisés dans la construction de structures en acier, en plus d'être utilisés dans les conduites d'approvisionnement en pétrole et en eau. Depuis 1995, cette entreprise a démarré son activité dans le domaine de la production de pièces et de machines industrielles. En 2004, avec l'agrandissement de cette unité industrielle et son transfert à la ville industrielle d'Oneka dans la province de Mazandaran, le domaine des activités de l'entreprise a également changé et s'est déplacé vers la production de tubes et profilés en acier, et avec l'expérience que cette entreprise a dans le domaine de la conception et de la fabrication de machines industrielles, toutes les étapes de conception, de construction et d'installation de la ligne de production des tuyaux soudés ERW ainsi que de la ligne de production de sections structurelles creuses ont été réalisées par les ingénieurs et techniciens de cette société. L'un des piliers importants du succès de la société d'acier pour l'industrie automobile en tant qu'unité basée sur la connaissance dans le domaine de l'industrie est la communication directe et la coopération conjointe entre les deux unités de recherche et développement et de construction de machines en même temps. Cela a amené cette entreprise à transformer des idées en technologie grâce à des brevets déposés. Par conséquent, en construisant des machines et des lignes de production innovantes, en utilisant des mécanismes innovants, en plus d'une optimisation significative de la consommation d'énergie et de matériaux, la société a été en mesure d'augmenter considérablement la vitesse de production, la qualité, l'efficacité et les performances optimales des produits. Cette société a toujours coopéré avec des universités, des entreprises internationales, des parcs scientifiques et technologiques et a participé à des expositions et des conférences concernées. La société d'acier pour l'industrie automobile d'Oneka possède des projets innovés et des brevets enregistrés. Les principaux objectifs de ces unités de production sont de découvrir de nouvelles connaissances correspondant à la technologie industrielle afin de promouvoir la qualité des produits et de concevoir de nouveaux produits en vue de découvrir les mécanismes d'optimisation des processus de production et de la consommation de l'énergie. Sur la base de ces mêmes objectifs, la société d'acier pour l'industrie automobile a pu déposer et produire 4 brevets. La machine de découpe rotative de tubes en acier avec lame à rouleau et mécanisme différentiel, processus de production de profilés creux lourds en acier carré, grue de toit avec structure en treillis et mécanisme auto-ajustable et collecteur de rouleaux de tôle d'acier épais avec mécanisme des 3 rouleaux sont l'une des inventions de cette société. Les produits de la société d'acier pour l'industrie automobile comprennent des profilés en acier, des structures en acier et des machines. Les profilés en acier comprennent les profilés de construction creux, les tubes en acier soudés, les profilés en acier remplis de béton. Les sections creuses à des fins structurelles sont des tubes en acier avec des joints soudés à haute résistance qui sont utilisés comme éléments porteurs dans les bâtiments et autres structures et produits manufacturés. Ces profilés sont produits dans des formes rondes, carrées et rectangulaires et dans une large gamme de tailles. Leurs avantages consistent à une belle apparence, un rapport résistance-poids élevé, une intégrité de la résistance, un prix abordable et une recyclabilité. Tous les profilés creux produits par cette entreprise sont soudés et sont fabriqués en 3 nuances d'acier d'épaisseur et de diamètre différents.
Les sections creuses à des fins structurelles, notamment les sections rectangulaires, sont généralement utilisées dans les structures en acier soudé comme élément porteur principal dans différentes directions. En outre, les sections carrées et circulaires sont également très efficaces pour ce chargement multiaxial. En raison des propriétés géométriques uniformes de ces sections le long de deux axes ou plus, elles présentent une très bonne résistance et cette caractéristique fait de ces sections de bonnes options pour les colonnes. Elles ont également une bonne résistance à la torsion. Le pont roulant est l'un des autres produits de la société d'acier pour la construction automobile d'Oneka, un type de grue dans l'environnement industriel qui est utilisé pour déplacer et transporter des objets lourds dans l'industrie. L'utilisation de ponts roulants ne facilite pas seulement le mouvement, elle permet également d'occuper moins d'espace. Il facilite les mouvements dans l'espace principal et réduit le coût des machines lourdes. Dans les grands environnements où des mouvements précis sont nécessaires, le pont roulant est présenté comme la meilleure option en termes de choix. En 2014, la société d'acier pour la construction d'automobiles d'Oneka a franchi une nouvelle étape dans l'industrie des machines et la production d'équipements lourds avec une nouvelle conception d'un type de pont roulant. La structure de ce pont roulant innovant est fabriquée à partir de sections creuses en acier produites par cette entreprise. Le squelette du bâtiment est un autre produit de cette entreprise. Les bâtiments sont construits pour répondre à divers besoins humains. Les ingénieurs civils et les architectes sont chargés de garantir la solidité du bâtiment. Ils sont également responsables de la beauté extérieure du bâtiment et de sa structure conforme. Afin d'avoir un bâtiment solide, il est nécessaire de construire son squelette en utilisant des matériaux appropriés en suivant de nombreux critères techniques. Aujourd'hui, la construction se présente sous deux formes générales. La construction avec des structures en béton et l'utilisation de structures en acier pour construire la charpente métallique du bâtiment. Les structures en béton sont généralement plus courantes à petite échelle et sont davantage utilisées, mais le fait de connaître les avantages de la construction à ossature métallique par rapport aux structures en béton peut aider les clients dans leur choix du type de structure. La conception, la construction et l'installation de structures lourdes et de hangars métalliques massifs avec l'utilisation de personnel expérimenté, un contrôle continu de la qualité est l'une des activités les plus importantes de la société d'acier pour la construction automobile d'Oneka. En raison du développement de la construction, les méthodes de construction modernes doivent être progressivement remplacées par les méthodes traditionnelles. Les structures en acier peuvent être l'un des meilleurs choix dans ce domaine en raison de l'utilisation de l'acier comme matériau principal. L'un des principaux avantages de l'acier qui a conduit à son utilisation dans les structures en acier est sa grande résistance, sa soudabilité, sa malléabilité, sa flexibilité, son homogénéité et son élasticité. Par rapport au squelette en béton, ces structures peuvent présenter un meilleur comportement face à des événements inattendus tels que les tremblements de terre. La grande vitesse de production et de développement de ces structures réduit le temps nécessaire à la fabrication de produits finaux. En outre, l'utilisation de ces structures permet d'alléger le bâtiment et d'augmenter sa résistance. Les avantages des squelettes métalliques par rapport aux squelettes en béton sont la haute résistance, l'uniformité des propriétés, la durabilité, la malléabilité, le renforcement et la possibilité de mise à niveau, la vitesse d'exécution plus élevée, la légèreté et la réduction des exigences d'espace. Compte tenu de l'avancement de la technologie et considérant également le développement et l'application des machines industrielles et leur rôle clé dans la production, la société de NECA a augmenté la vitesse, la capacité, la qualité et la précision en mécanisant le processus de fabrication et de production. L'entreprise est également entrée dans une nouvelle phase des industries manufacturières en utilisant les nouvelles technologies, en augmentant l'utilisation maximale des équipements et la productivité du travail. La société de NECA a conçu et fabriqué tous ses produits innovants et ses machines spéciales avec un niveau élevé de qualité et de sécurité et des performances excellentes et uniques en s'appuyant sur les connaissances et l'expérience de longue date de son personnel.
Thank you.